Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what, I like that idea.
Ce podcast est rendu possible par Stellar, un collectif de top CPO qui ont participé au succès de startups comme Zenly, Sunday, Spendesk ou Blablacar.
I'm so happy.
J'ai cofondé ce collectif avec une mission, aider les dirigeants d'entreprises tech à créer les produits qui dominent leurs industries.
Oh, yes, yes.
Retard sur la roadmap, équipe désalignée, produits lents à décoller, ces problèmes, nos CPO les connaissent par cœur. Et ils débarquent à tes côtés pour les résoudre dans des formats rapides, actionnables et clés en main.
Well, that's excellent.
Si tu es dirigeant ou CPO et que tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a très certainement des choses à se dire. On se retrouve sur wearestellar.io ou via le lien en description d'épisode.
Oh, yes, yes.
Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Corache sur Clé de Voûte. Raphaël démarre dans la tech en cofondant sa start-up. Alors qu'il sort d'école, il apprend à coder sur le tas et contribue activement au développement de l'application. 2 ans plus tard, il rejoint Drivey, racheté par GetAround, et gravit les échelons jusqu'à en devenir le VP Product. Il vient sur Clé de Voûte nous raconter son parcours et ses 9 ans de challenge chez GetAround. En seconde partie d'épisode, il détaille le process suivi chez GetAround pour fusionner 2 produits avant de nous livrer 2 astuces pour mieux gérer son temps en tant que Product Manager. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, on recommence, on reprend la partie 2. Qu'est-ce que tu veux évoquer comme sujet dans cette partie, Raphaël ?
On a parlé un petit peu plus tôt là, de, justement de cette acquisition et de prendre une plateforme pour en faire une plateforme globale. En fait, c'est un sujet, pour tous ceux qui l'ont déjà vécu, c'est un sujet extrêmement compliqué. On ne parle pas de semaines ou de mois de travail, hein, on parle vraiment d'années, enfin, en tout cas au moins une année. Et donc, vraiment, comment approcher une fusion entre 2 produits, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment beaucoup bossé dernièrement, qui sort un petit peu du product management pur. Mais on pourra en parler.
Carrément. Alors là, je vais faire un petit peu de contexte pour les gens qui arriveraient sur l'épisode du mercredi, puisque cette partie, elle est aussi proposée directement toute seule en standalone. Le mercredi, pour donner un peu de contexte, donc Raphaël est VP de GetAround, VP Product. Il a été, GetAround a racheté Drivey en 2019, c'est ça Raphaël ?
C'est ça, ouais.
Ouais. Et donc, il y a eu ce sujet de qu'est-ce qu'on fait des 2 plateformes indépendantes ? Est-ce qu'on les fusionne ou non ? Et donc, en effet, la réponse, c'est oui. Ces plateformes, elles ont, en tout cas stratégiquement, l'entreprise a décidé de les fusionner. Et donc, dans cette partie, on va reprendre ça. Comment ça s'est fait ? Au produit, alors il n'y aura pas que du produit, il y aura aussi, j'imagine, pas mal de strates, pas mal de bon sens et d'opérationnel, mais c'est ce qu'on va essayer d'aborder et qui est un sujet qui n'est pas simple à aborder du tout. On a préparé le truc en étapes. Et justement, qu'est-ce que tu vois comme étape un peu qu'on va aborder là pour, comme fil conducteur.
Ouais, il y a beaucoup de choses, donc je me les suis un petit peu noté, mais on a, je sais pas, 7-8 étapes peut-être. Le premier, très simplement, c'est de choisir le produit qu'on va intégrer à l'autre. On a 2 produits au début, on n'en veut plus qu'un. Je reviendrai dessus, mais est-ce qu'on veut en prendre un, en prendre les deux, un petit peu des deux, en prendre l'autre, etc. Étape 2, c'est un peu de documenter les 2 plateformes. Quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce qu'il va falloir produire pour un peu clore la différence entre les deux. Étape 3, c'est comment on distribue la charge de travail, tout simplement. Est-ce qu'on veut une petite équipe dédiée ou est-ce qu'on veut le donner un petit peu à tout le monde, ouais. Étape 4, et ça je le disais juste avant, c'est vraiment de considérer ça non pas comme du product management, mais du project management. Étape 5, qui vient un peu avec l'étape 4, c'est tout ce qui est autour de la gestion des personnes, donc tout le people management. Très lié aussi le rôle de la communication dans tout ça. On a parlé, j'ai dit, c'est surtout du project management, mais il y a quand même du product management là-dedans. Et du coup, on va parler aussi un petit peu ça en étape 6-7. Qu'est-ce que ça veut dire le product management dans un process de fusion? Et un autre sujet qui est un petit peu plus technique, mais tout aussi clé, donc des fusions, on en fait on n'en a pas fait qu'une, en fait, on en a fait plutôt 4 ou 5 dans l'histoire de Drivee, c'est la migration des données. Je pense que ça mérite aussi un point en soi.
Tu disais donc que l'étape 1, c'était de choisir quel produit va être intégré à l'autre, ou en tout cas, voilà, à partir duquel on va commencer un peu ce chantier. Comment ça se passe, cette partie ? Comment ça s'est passé, du coup, pour Drivee Gateround à cette époque ?
Ouais, donc effectivement, on commence par le commencement. Il faut qu'on se fasse une idée de à quoi va ressembler un peu l'état final, avant de se dire comment on y va. Et c'est quelque chose qui peut virer, en plus, très rapidement, émotionnel ou politique. On parle de jeter pour une team ou l'autre des années ou des dizaines d'années de boulot de toute une équipe. Les gens, ils sont naturellement attachés. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Ils ont du mal à s'en séparer, si tu veux. Et il y a aussi, hors de ça, donc hors de l'attachement émotionnel, des tas de choix produits qui ont été faits d'un côté ou de l'autre, en pensant que, pour de bonnes raisons, que c'était les bons choix produits. Et si ce n'est pas les mêmes de l'autre côté, il y a une croyance un peu naturelle que son produit, il est meilleur de façon locale, quoi, sans forcément très bien connaître l'autre produit de l'autre côté.
Déjà que tu te bats pour une roadmap sur un même produit avec ton équipe, quand t'as une seule boîte, donc là, quand t'en as deux, j'imagine que c'est sport.
et du coup, il faut rendre un peu ce choix le plus objectif possible. Et c'est là que j'enchaîne avec ce que je présentais comme étant un peu la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le feature gap analysis. Donc c'est l'analyse de toute la différence entre les fonctionnalités qu'on a d'un côté et de l'autre. Ou bien parce que ça va être des fonctionnalités qui sont, disons, critiques à un marché en particulier. Donc des trucs débiles qui sont, il faut supporter les dollars si on a une plateforme qui va aller aux États-Unis. Ou vice-versa, il faut qu'ils supportent les euros. Pareil pour les time zones, des choses comme ça. Ou bien parce que ce sont des fonctionnalités qui sont propres au marché, mais plutôt au sens, les utilisateurs ne sont pas tout à fait la même chose. Les utilisateurs, pardon, ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes besoins exactement. Et ce qui marche en Europe ne marche pas forcément aux US et vice-versa. Donc, tout ça, il faut vraiment le documenter. Pour comprendre un peu, est-ce que la marche, elle est plus haute pour aller de la plateforme A vers la plateforme B, ou est-ce qu'elle est plus haute pour aller de la plateforme B vers la plateforme A ?
Concrètement, la démarche, c'est quoi ? C'est que vous avez refait de la discovery auprès d'utilisateurs, ou pas du tout ? Vous vous êtes appuyé sur l'existant, parce qu'il y a plein de choses qui étaient documentées chez l'une... Enfin, il y a plein de choses qui étaient documentées dans la boîte A ou B, j'imagine. Comment vous avez fait concrètement ? C'est quoi ?
Ouais, non, donc chaque côté a une très bonne connaissance de sa propre plateforme, et donc chaque côté a fait une grosse documentation de quelles sont toutes les fonctionnalités de sa plateforme. Et juste en comparant ça, en fait, nous, ça nous a suffi. En particulier, je peux donner des exemples, je commençais à parler des dollars, mais... C'est vrai que nous, en Europe, on avait déjà, avec Drivee, on avait déjà 6 pays, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, on savait faire du multi-pays, des time zones différentes, des devises différentes. On gérait l'euro, mais aussi la couronne norvégienne. Est-ce que c'est couronne ?
La monnaie norvégienne.
La monnaie norvégienne. Non, je le dis toujours en norvégien, voilà, dans le texte. Les pounds, enfin la livre sterling, etc. Là où les US, ils n'avaient qu'un système monétaire. Donc c'est tous ces systèmes un peu cœur qu'il faut reconstruire, qui prennent beaucoup de temps. Et quand on a 2, 3, 4, 5, en fait, ça s'ajoute très très vite. Et on parle directement de mois de travail en plus, si tu veux le faire dans un sens versus l'autre. Et donc entre ça et le fait qu'à plein d'autres endroits, on a réussi à estimer que effectivement cette plateforme européenne était plus mature, le choix s'est fait... assez naturellement et facilement, quoi. Mais ça demande quand même un travail un petit peu objectif pour retirer l'aspect émotionnel dont je parlais tout à l'heure.
J'ai deux questions pour toi là-dessus. Ouais. La première, c'est ce travail-là, ce travail préalable, il a été fait avec qui ? C'est que le leadership de Drivee et Gateround, ou est-ce qu'il y a des équipes opérationnelles qui interviennent à ce moment-là ?
À ce moment-là, les leaders produits tech et data, doivent suffire. Normalement, ils ont une connaissance assez large de leurs produits pour savoir ça. Est-ce qu'on a besoin de temps en temps d'aller chercher de l'aide de quelqu'un dans une team parce qu'il connaît très très bien sur ce sujet, sur comment est câblé tout le système de flux financiers et tout ? Oui, mais dans l'ensemble, tu peux concentrer ça sur un nombre limité de personnes. Et c'est quand même plus efficace.
Pas les CEO, pas le comité exec côté business plutôt.
Eux, ils sont là pour plutôt pour valider les choix, mais en tout cas le travail d'exposer tout ça et de faire la recommandation, ça suffit entre les VP normalement.
Ok. Et avant de te laisser aller sur les étapes 3, 4 jusqu'à 8, ouais. Tu parlais de gestion des émotions avec cet attachement émotionnel de la part des équipes sur le travail qui a duré des années, quoi, avec tout un travail de sueur quoi, et de réflexion. Est-ce que vous avez commencé à l'adresser à ce moment-là déjà, ou alors c'est un truc qui vient plus tard, j'imagine, dans les parties communication que tu vas aborder à la fin?
Je pense qu'à ce moment-là, presque ça nourrit le travail de documentation. C'est peut-être le seul moment où c'est encore bénéfique, parce que chacun veut montrer tout ce que sa belle plateforme veut faire, et donc ça te pousse à documenter, faire de la bonne doc sur voilà tout ce qu'on veut faire. Exactement. Donc il y a un petit effet positif, mais je pense que ça s'arrête là. Après, tout derrière, ça te met plutôt des bâtons dans les roues.
J'imagine. Donc là, vous avez pas, à ce moment-là, t'informes pas tes équipes opérationnelles, toi, que Drivey est bien pour ça et Gataran est mieux pour ça, quoi. Il y a vraiment pas eu ce travail de pédagogie à ce moment-là. Là, c'est vraiment entre leaders. Vous êtes un peu effectivement en train de défendre votre truc, mais vous restez objectif sur le choix sans informer le reste de l'équipe, quoi.
Non, enfin, on est ouvert et transparent avec le reste de l'équipe. Ce que je disais tout à l'heure, c'est juste qu'on leur demande pas à eux de faire le travail de documentation. Mais okay. on retient pas toutes ces informations juste à notre niveau.
Ok, hyper clair. Donc, on a dit, au début, le but, c'est de valider, de choisir quelle plateforme va être priorisée pour devenir un peu le socle de toute cette fusion.
Ouais.
Le deux, c'est d'analyser de la donnée. T'as donné plein d'exemples, j'imagine qu'il y avait beaucoup de variables, peu importe. Mais en tout cas, vous avez fait ce travail d'analyse avec le leadership des deux boîtes.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Ensuite, une fois qu'on a choisi, on va commencer un peu à rentrer dans le project management. On a fait une liste de fonctionnalités, on a choisi, on dit voilà, on prend la plateforme B et c'est celle-ci qu'on va devoir augmenter de plein de fonctionnalités qui manquent pour arriver à quelque chose qui marche comme la plateforme A ou pas très loin. Ok, et ce gap, cette liste de fonctionnalités, en fait, dès le début, elle est énorme. On parle de centaines de fonctionnalités qui peuvent être petites ou grosses. En tout cas, dans notre cas, et pour une migration qui est aussi grosse, évidemment, hein, quand on intègre une boîte beaucoup plus petite qui est sur un marché très similaire au nôtre, ça peut être fait en 3 mois si on veut. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment énorme. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose qui est géré par une squad ou deux squads. Et donc, dans notre cas, il y avait vraiment un enjeu à distribuer toutes ces tâches. Et à s'accorder un petit peu sur une stratégie qui va guider les choix sur chacune de ces tâches. Parce que toutes ces tâches, c'est les tâches qui font la différence. Ça ne veut pas dire qu'on doit toutes les faire. Il y a certaines choses qui sont indispensables, on en a parlé tout à l'heure, gérer les dollars. Il y a certaines choses qui sont, ça va améliorer de quelques points la performance. Oui, ben d'accord, mais faire ça, ça améliore de quelques points la performance, mais ça repousse un lancement de tant de mois. Est-ce qu'on veut le faire, etc. Et donc, il faut vraiment commencer un petit peu par cette philosophie. D'abord, de façon un petit peu, un peu plus haut niveau, quel type de timeline on veut? Est-ce qu'on veut faire la migration la plus rapide possible pour pouvoir passer à autre chose? Ou est-ce qu'on veut faire la migration qui a le moins d'impact possible négatif sur le business qu'on est en train d'intégrer? Et donc, est-ce qu'on veut faire quelque chose de long, très progressif, qui peut être sur plusieurs années? Est-ce que c'est quelque chose bloc par bloc? Est-ce que c'est tout d'un coup, etc., etc. Nous, on a fait le choix d'aller vite, et je mets des guillemets à vite, parce que vite, en fait, c'est difficilement en dessous de 1 an, mais avec des étapes. On a commencé par quelque chose qui était vraiment très, 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 très vite, très MVP, pour utiliser les gros mots, sur un petit marché des États-Unis, parce que c'était important pour nous d'avoir notre plateforme et de voir des locations qui commençaient à arriver, de voir ce qui marchait pas, voilà. Mais en revanche, en faisant ça, en allant très très vite, on a complètement cassé le marché en question. Quoi.
Ah ouais.
Oui, oui, bien sûr. Mais c'était admis. C'était quand même... ça faisait mal à plein de gens, mais on était OK avec ça. C'était quand même un succès au point de vue technique du terme. Quoi. On a une plateforme qui marche, il y a des locations qui se passent, qui sont faites sur cette appli qui est, qui est gérée par l'Europe.
Vous avez commencé par les US, du coup, ça, mais avec la plateforme Drivee, qui était du coup pas aux US à l'époque, c'est ça ?
C'est ça, on a commencé par un état des US, la Floride.
Ok, les pauvres.
Les pauvres. Ils ont essuyé les plâtres.
Les pauvres. Et combien de temps il se passe entre cet état un peu essai, tu vois,
ouais.
Cet état test, je pense que c'est le meilleur mot,
ouais.
Et le déploiement peut-être déjà full US ?
Ouais. En gros, on a fait, allez, je vais schématiser, 4 mois pour faire un MVP. Encore 4 mois pour faire un MVP, encore 4 mois pour avoir une version qu'on estime être vraiment très bonne, mais qu'on veut quand même valider sur un marché cette fois-ci plus gros, donc un deuxième état, et encore 4 mois pour dire maintenant on fignole, on a réappris des choses avec ce marché plus gros qui nous apporte plus de volume, donc on peut mesurer plus de data, etc., et vraiment être sûr de tout ce qu'on fait. Avant d'appuyer sur le bouton, après il y a d'autres considérations de timeline. Tu veux lancer pas en saison haute mais en saison basse, tu veux pas lancer pendant des grosses vacances comme Thanksgiving, pendant l'été, toutes ces choses qui peuvent te dire on est peut-être prêt mais on va attendre encore un mois de plus, et donc 4 mois, à la fin ça nous aura pris un an, mais on aurait pu décider encore une fois d'aller plus vite et de casser plus les choses chez eux, ou d'aller plus lentement et d'être sûr de d'avoir des métriques au top. En pratique, on est très content du résultat en si peu de temps. Mais en revanche, on a vraiment dédié énormément de la bande passante de la team.
J'allais te demander justement, ouais. Tu parlais de distribuer la charge de travail.
Ouais.
Finalement, c'était quoi la décision finale ? C'était de mettre toute l'équipe dessus, une partie, et qui dans ce cas ?
Ouais. Donc c'est une partie de l'équipe au sens où l'équipe maintenant... telle que je la considère, c'est l'équipe globale, donc les équipes européennes et les équipes américaines. Mais comme là, on parlait de rajouter des fonctionnalités sur la plateforme européenne, en fait, c'est surtout la team européenne qui va travailler. Parce que les autres, ils ne sont pas onboardés dessus, parce qu'en plus, on avait des stacks différentes entre Ruby chez nous, Python chez eux. et que entre-temps, il faut qu'ils fassent tourner leur business aussi. Donc, en pratique, eux en ont... assez peu fait, peut-être 25% de leur bande passante, c'était pour ça. Et nous, en revanche, on avait peut-être trois quarts de la bande passante de toutes nos squads qui a été dédiée à ça pendant un an. Ouais. C'est énorme.
Dingue. Et ça, c'est quoi ? C'est la distribution de la charge, vous l'avez schématisée quelque part ? Vous l'avez formalisée ? Vous saviez déjà que ça allait prendre un an, je veux dire ?
Ouais, je pense qu'on... En regardant la liste, en fait, en comprenant ce que je disais, un petit peu la philosophie de à quel point on est prêt à sacrifier le business d'arriver ou pas. Et nous, on savait qu'on n'était pas trop prêt à le sacrifier. On savait que ça ne pouvait pas prendre moins que ça. Ouais.
Et pendant ce temps, le business en Europe continue de tourner.
Et pendant ce temps, le business en Europe continue de tourner. Et hyper frustrant parce qu'on a les teams en Europe qui ne peuvent pas faire de travail pour le business en Europe. Donc, ils continuent à tourner. Nous, on a toutes les équipes produits et tech. Leur plaisir dans la vie, c'est quand même de faire des features pour leurs utilisateurs, machin. Et là, en fait, ils sont pas en train de faire ça. Ils sont en train de faire de l'intégration. Faut pas négliger ça non plus. Hein, un peu le poids que c'est pour les teams. Je pense que tout le monde comprend que c'est pour le bien de la boîte à long terme et tout. Mais c'est pas un plaisir au jour le jour. Hein. Ouais. Hors du fait de la satisfaction de faire des choses compliquées, mais. Donc il y a ça, et il faut penser aussi à tous les stakeholders business qui, eux, ont aussi plein de choses à demander dans la roadmap, comme chaque année, sauf qu'on leur dit c'est non, pendant un an. Voire on leur dit pendant 6 mois ou 8 mois, parce qu'on leur a dit au tout départ non, on va aller très très vite, et puis en fait ça prend plus de temps que prévu, donc c'est encore plus frustrant, et un an c'est long. C'est très très long. Donc il y a ça pour les équipes, et puis après il y a pour le business. Ça veut dire que tu fais pas des features pour ton business, et donc ton business il croit un peu moins, ou t'es obligé de dépenser plus de marketing. Donc c'est faire un truc comme ça, c'est un vrai investissement qui paye à long terme, et il y a une forme de sacrifice sur le court terme. S'il y a un conseil, c'est faut le faire le plus tôt possible, en fait, parce que plus on attend, on trouve toujours une bonne raison de « Ah oui, mais là, cette année, comme il faut qu'on arrive à faire ça, on ne peut pas se permettre. » En fait, l'année prochaine, ça va être pire. Ton business va être plus gros et donc la croissance que tu vas sacrifier l'année prochaine, ça va être sur une base qui est plus grosse. Enfin, plus t'attends et plus que tu sacrifies est dur. Donc, il faut vraiment un peu arracher le sparadrap le plus tôt possible. Nous, typiquement, quand on regarde dans le passé, on se dit on aurait dû faire cette migration pendant les années Covid, enfin pendant les années confinement et tout, parce que de toute façon, le business était à zéro. Enfin, tout le monde était en confinement, on pouvait pas prendre de voiture et tout. Donc, si on va vite et qu'on casse du business, bah, c'est pas grave, on casse quasiment rien.
Hormis pour tester, t'aurais été un peu embêté de tester avec
c'est
vrai
plus dur. C'est plus dur d'avoir du volume, effectivement.
La Floride, à ce moment-là, ça devait être un peu moins fun.
Ça devait être un peu moins fun. Mais rétrospectivement, on se dit, on aurait peut-être pu faire ça. Bon, après.
Y a toujours un.
Non, mais il y avait plein d'autres bonnes raisons de ne pas le faire parce que bah, tu sais pas si ta boîte va survivre, qu'il faut protéger le cash, donc tu mets plein de gens en furlough, etc. Mais ouais, je conseillerais quand même de le faire assez tôt, quoi.
Hyper clair.
Ouais.
Donc là, on était à répartir la charge, tu vois, dispatcher les tâches,
ouais.
Trouver vraiment l'équipe qui va bien pour le faire. C'était quoi l'étape suivante que tu avais en tête?
Ouais, je parlais donc du project management. Et donc vraiment le project management au-delà du product management. Je disais, on parle vraiment de faire des grandes listes de features. Et une fois qu'il y a ça, bah, il faut traquer que tout avance à temps, faire des phases de release sur plusieurs mois, des rétro-planning, de travailler sur des deadlines, avec des deadlines, ce qu'on fait moins quand on est sur des systèmes de roadmap un peu au quarter, etc. Et ça, en fait, ça demande impérativement d'avoir une personne en charge de faire ce travail, donc un project manager. En l'occurrence, cette fois-ci, c'était moi dans d'autres intégrations.
Ouais,
bon, voilà.
Vous avez embauché quelqu'un ou pas, mais non, c'est toi.
Non. On a eu d'autres intégrations dans le passé. Je parlais de la Norvège tout à l'heure. C'est notre marché, la Norvège. C'est aussi l'acquisition d'une belle boîte qui s'appelait Nabobile. Et cette intégration, c'était un autre PM, l'équivalent d'un principal PM, justement.
On a ici, du coup.
On a parlé. J'essaie de me jeter des balles dans le podcast pour les rattraper.
j'ai vu ça. Il fait les gestes, là, vous ne voyez pas, mais.
donc ouais, il faut du project management. Et si je reviens donc aux tâches par squad, donc j'ai dit on a distribué un peu cette liste de 100 features de façon au plus équilibrée donc entre toutes nos squads. Ça demande d'impliquer des stakeholders business aussi, parce que beaucoup de ces tâches, de ce qui doit être ajouté, enlevé, ce sur quoi on fait des compromis ou pas, ça relève des règles métiers, des process qui vont avec. Et donc toujours sur le project management, en fait, le project management, c'est amener une grande liste de tâches à un bon endroit, mais c'est aussi amener beaucoup de personnes à un nouvel endroit qui est une forme d'endroit de complétion où ils sont onboardés, et onboard, c'est-à-dire que ils comprennent ce qu'ils doivent faire maintenant dans ce nouveau monde, mais aussi ils y mettent du leur. Donc c'est des nouveaux systèmes, des nouveaux process, et c'est un peu comme si tu as une boîte, on parle pas de merger et tout ça, de fusion, mais je te demande d'onboarder une centaine de nouveaux arrivants dans ta boîte. Alors, il y a des boîtes en hyper-croissance qui doivent faire ça, mais en fait, les boîtes qui se retrouvent comme ça, je pense qu'elles ont vraiment du staff pour le faire, elles ont des systèmes, des process, tu sais que tu le fais pour longtemps. Nous, c'est du one-shot, donc t'as pas forcément tous les process, et c'est là, encore une fois, qu'avoir un project manager, ou en l'occurrence, il y a même une deuxième personne qui est venue m'épauler là-dessus, tellement c'est important, c'est clé parce que tu vas avoir besoin de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec tous ces gens-là pour les amener justement dans ce nouveau monde. Et les tâches, bah, tu peux les amener comme tu veux. Les personnes, et je reviens un petit peu à les différentes priorités qu'ils ont parce qu'ils ont toujours leur business à gérer, au l'attachement à ce qu'ils avaient avant, bah, tu vas avoir en plus un petit peu d'opposition à ça, tu vois, un peu de retenue. et ça, c'est hyper dur aussi à gérer.
Comment tu as fait concrètement? C'est de la pédagogie, j'imagine, et l'explication de la com à nouveau. Leur expliquer un peu la mission et pourquoi vous faites ça. C'était quoi? Il y a eu des... Là aussi, il y a eu des meetings qui étaient préparés pour ça, de l'individuel.
Il n'y a pas de... Encore un anglicisme, silver bullet, je ne sais pas comment...
Balle d'argent.
Ouais. Non, mais il n'y a pas de carte joker qui règle tout. Ça a juste pris beaucoup, beaucoup de temps. Et tu t'en parlais au tout début, hein, tu dis « Ah oui, là, on va parler des trucs qui sont super. On dit toujours ce qui va bien dans les boîtes. Je n'ai pas de problème à dire que ça, c'est un truc qui nous a posé problème, sur lequel on a galéré. Au départ, ça ne se passait même pas très bien, la collaboration, en fait. Et ça a été dur, ça a pris du temps. Je pense qu'il faut une résilience extrêmement forte, qu'il faut comprendre d'où les autres viennent, pourquoi en fait ils sont dans cet état d'esprit. C'est vrai que pour nous, c'était très très dur. Je te disais, on dédiait la majeure partie de nos ressources pour d'autres gens, pour un autre marché qui ne nous concerne pas, parce qu'en fait, on était encore Gator en Europe / Drivey, si tu veux, un petit peu dans nos têtes. Vu que jusque-là, on opérait toujours notre business européen. Donc, on fait tout le travail pour eux, et eux ne nous aident même pas à faire ce travail, et on ne fait rien pour notre truc. Tu vois, et du coup, dès que tu as la moindre frustration, tu
reviens sur ça, quoi.
Ouais. C'est un peu le aide-moi à t'aider, quoi. Nous, on est là, on leur demande plein de choses. Ah, mais moi, je ne peux pas décider, je ne peux pas comprendre ton truc, je ne peux pas faire les trade-offs parce que tu ne me files pas l'info. Aide-moi. Les gens ne répondent pas en face parce que eux, ils n'ont même pas conscience que c'est important, que ça doit être dans leur priorité, si tu veux. Et donc ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de, je te disais, de résilience. Je pense que, et je ne l'ai pas forcément été tout de suite au début, mais la personne qui est en charge de ce project management doit être vraiment irréprochable. Ne jamais, enfin surtout ne pas transmettre justement plus de frustration. Au contraire, tu es censé être tampon, tu es censé calmer les gens quand ils sont frustrés. Et c'est dur parce que toi aussi tu le ressens, donc tu dois prendre pas mal sur toi. Et après, je reviens sur ce truc de MVP de Floride. Ça, c'est quelque chose qui a été clé aussi, une espèce de petit point pivot où c'est devenu un peu réel pour eux. Parce que enfin, il y a des locations qui se passent chez eux. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était réel, mais pas trop. Il a fallu encore attendre l'étape d'après pour avoir, tu vois, encore plus d'investissement de leur part. Mais c'est là que je te dis que c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est beaucoup de patience, être zen, devenir beaucoup plus politique dans ta vie, et là-dessus j'ai beaucoup appris, rendre les choses concrètes avec ce fameux MVP, et puis après plein d'autres choses comme sortir la data tout le temps, des rituels, c'est-à-dire ça marche pas le truc asynchrone, etc. Vous savez quoi, on fait un meeting toutes les semaines de 30 minutes où on se regarde dans les yeux, où les gens qui font pas leur travail, on peut un peu tu vois, une espèce de mini pression saine. C'est pas des très jolis mots, mais en fait il faut, quoi. Et donc c'est vraiment une combinaison un petit peu de tous ces trucs, et je reviens au fait qu'il n'y a pas un élément
qui a solution universelle.
Qui a tout débloqué.
Tu parlais de la communication d'ailleurs en étape 6, c'est ça la communication, c'est le fait de ritualiser les choses, de faire se rencontrer les gens, de continuer à passer les mêmes messages tout le temps pour que ça rentre dans la tête de toutes les équipes en Europe et aux US.
Ouais, absolument. Du coup, j'ai un peu effectivement mélangé les étapes, mais communiquer, c'est critique. Faut vraiment faire comprendre aux gens pourquoi on le fait, pourquoi on a besoin d'eux. Et il n'y aura jamais trop de communication, que ce soit pour le produit et pour le business, aussi envers les execs, toute la team d'execs, parce que là, j'ai beaucoup parlé un petit peu du travail dont on avait besoin des teams directement, mais les execs, ils sont là, on va souvent leur demander de valider des décisions pour aller dans une direction ou dans une autre. Et ça, parfois, c'est difficile à obtenir. Et donc il faut vraiment, donc ils vont toujours tout vouloir. Moi je voudrais que ça aille vite et que en plus il y ait pas d'impact sur le business. tu peux pas tout avoir. Et donc vraiment leur expliquer pourquoi, leur expliquer vraiment quelles sont les options, qu'est-ce qu'on recommande, etc. Ça c'est pareil en fait. Donc je parlais d'un rituel hebdomadaire avec toutes les teams opérationnelles. J'avais aussi un rituel hebdomadaire avec tous les execs pour faire le point, leur donner de la visibilité et être sûr que je pouvais débloquer certaines décisions. Et il y a autre chose qu'on a un peu établi là-dedans. Donc il y avait ce fameux rituel. Et il y a aussi on a essayé d'objectiver.
Ouais, je sais pas si on c'est bon, ça. C'est bon. Ouais.
La décision de est-ce qu'on appuie sur le bouton ou pas. Parce que jusque-là, c'était très théorique de à quelle vitesse on veut aller, est-ce que oui ou non on veut protéger le business. Et en fait, on a fait une liste de métriques, de KPIs, qu'on a essayé de réduire au maximum, sur lesquelles, pour chacun, on a dit qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Donc voilà, genre, l'impact sur l'EBITDA, on veut qu'il soit de maximum moins 7%, je dis n'importe quoi. L'impact sur la top line, donc les revenus, ça doit être de moins 10%. L'impact sur, je sais pas quel est le truc, sur les revenus propriétaires, ça doit être de temps, voilà. Et une fois qu'ils ont été figés, ces trucs-là, nous, on n'avait plus qu'à exécuter sur, est-ce qu'on est arrivé au bon niveau ou pas? Et on s'était donné justement une date qu'on a appelé le go no go. On s'est dit voilà, à cette date, on va revoir toutes ces métriques dont on a parlé. On va revoir si oui ou non on a atteint via les fameux premiers marchés qu'on avait déjà lancés. Donc on peut avoir de la vraie data terrain. On a atteint tous ces niveaux de KPI. Voir par exemple celui-ci on n'y est pas tout à fait mais regardez on a un plan pour y arriver, on a les features qui vont nous permettre d'y arriver, qui sont presque shippées ou quoi que ce soit, et avec ça on peut mettre le tampon. Et ça c'est un truc aussi qui nous a beaucoup aidé, parce que sinon toutes les discussions tournaient vraiment en rond sur est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire, non il faut qu'on le fasse plus tard, nanana.
T'avais une date d'arrêt quoi.
Ouais, exactement. Ouais.
Il y avait deux, trois autres sujets que tu voulais aborder pour finir sur cette partie de fusion entre les deux produits. C'était quoi, Raphaël ?
Ouais, on a parlé beaucoup de project management, mais quand même, je voulais parler un petit peu de produit là-dedans. Et il y a plusieurs éléments dont je voulais parler. Le premier, c'est un peu qu'on a amené de... Donc, en plus des métriques, de la data, tout ce qu'on a mesuré, on a amené de la user research pour bien comprendre quels étaient les trous dans la raquette. Ça nous a permis de vraiment bien prioriser les features qu'on comptait faire ou pas, d'ailleurs. On a aussi fait un gros travail sur la copy, et notamment pour tous les utilisateurs qu'on doit transférer d'une appli à d'une autre. Il y a un gros enjeu de pas trop les perdre. Et voilà, on a une UX writer qui a beaucoup bossé là-dessus, qui a aussi bossé sur l'harmonisation de la terminologie. Parce qu'en fait, on a des concepts qui sont les mêmes, mais on ne donnait pas les mêmes noms. Et donc ça, que ce soit pour les teams ou les utilisateurs, c'est hyper important. Et on a accéléré notre travail aussi sur la localisation. Ça faisait un moment qu'on faisait de la localisation, je disais, pour nos 6-7 pays en Europe, mais là on a décidé en fait même de concrétiser une squad qui est une squad localisation, qui est là pour faire un peu du produit cœur sur lequel toutes les autres squads vont pouvoir se reposer pour localiser notre produit de façon plus efficace. Plein de choses bêtes comme les formats de dates, les calendriers qui commencent le dimanche aux US, des choses comme ça pour ceux qui en font déjà, ça leur parlera. Il y a d'autres choses comme la présentation des prix, et ça j'en ai parlé avec d'autres boîtes assez récemment, comme Back Market par exemple, où les moyens de paiement sont très différents aux États-Unis. Beaucoup de credit card, de lignes de crédit et tout ça. La présentation des prix, en général, on montre beaucoup de subtotals qui sont beaucoup moins élevés. Et puis, au moment de payer, il y a plein de frais qui se rajoutent, alors que chez nous, on montre des totaux en entier. Mais si on montre le total en entier dès le début sur la recherche, tout le monde se dit « Ah, mais c'est beaucoup trop cher, je me casse !» Donc plein de travail qui a été fait là-dessus. Et la dernière étape, peut-être, dont je parlais, c'était tout ce qui était migration des données. Donc ça, quelque chose de beaucoup plus technique, en parallèle des fonctionnalités. C'est qu'il faut déjà définir tout ce qu'on va migrer ou pas. Donc, il faut qu'on migre les propriétaires sur notre plateforme, les voitures sur notre plateforme, Mais par exemple, les locataires, donc les clients finaux, il y a une question. Est-ce qu'on veut les migrer ou est-ce qu'on veut juste dire bah, ils vont se recréer un compte ou quelque chose comme ça. Bon, on a décidé de les migrer parce qu'il y a quand même un enjeu de conversion, mais est-ce qu'on veut migrer les locations qu'ils ont fait dans le passé? Bon, est-ce que c'est important ou pas? Exactement. Et tout ça, ça rajoute beaucoup de boulot. Une fois qu'on a les voitures, bah, les disponibilités des voitures, les prix des voitures, c'est vraiment énormément, énormément de données. Donc il y a plein de pipelines techniques à gérer entre la tech et la data là-dessus. Et donc ça c'est vraiment au cas par cas. Hein. Il y a toute la catégorie de ceux qui sont évidentes. Mais là on est déjà en train d'anticiper sur une autre migration. J'ai l'impression qu'on en fait beaucoup. Mais l'avantage c'est qu'on commence à devenir expert. Et c'est un des premiers trucs qu'on regarde, la migration de données. Ouais, exactement.
Là, on l'a fait comme dernière étape parce qu'on l'a expliqué comme ça, mais c'est un truc aujourd'hui que vous
regardez. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu commencer par là.
On n'est pas sur du chronologique pour info là. Là, on l'a fait comme ça pour expliquer comment t'as fait pour cette première fusion, mais faut pas le voir comme chronologique. Ça.
Ouais. On devrait tricher et le changer dans l'ordre du podcast. Voilà, à l'éditing, exactement.
On va laisser comme ça.
Voilà, et le tout petit dernier truc que je veux raconter pour conclure, c'est que c'est quand même une occasion de fédérer beaucoup de gens, et il faut surtout pas rater ces petites occasions. Donc nous on a eu un petit peu ces lancements intermédiaires, à chaque fois on en fait une grande fête, et c'est hyper important, ça rassemble tout le monde. Alors, on n'est pas SpaceX dans la mission control à regarder si la fusée va exploser ou pas. Mais il y a un peu de ça, quoi. Et limite, on en rajoute. On stage un peu le truc. Allez, voilà. Tout le monde est là. Les confettis, les machins, les confettis. Les gens qui appuient sur les boutons, on va mettre des boutons marrants, des écrans derrière, tout un peu en real time, et après il y a aussi ce truc un petit peu de cet esprit hackathon où on est là, il y a des choses qui cassent, en tout cas au moins la première fois, au fur et à mesure des lancements là ça va évidemment de mieux en mieux, et t'as tout le monde qui est là sur son ordi en train d'investiguer les bugs, ça finit tard, on est tous contents, c'est des super moments, et c'est là que tu retrouves aussi l'esprit startup, même si t'es devenu une scale-up un peu plus gros, et je pense que bon, tout le monde y pensera, mais faut vraiment pas l'oublier, parce que comme je disais, c'est long, c'est un grand sprint marathon, et ça fait plaisir quand on peut célébrer ces moments-là.
Trop cool. Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous livrer, Raphaël, et de manière transparente en plus. On a vu que c'était pas que des étapes qui marchaient à chaque fois. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut retenir aussi. À nouveau, ce que disait Raphaël au début, c'est que il y a pas de loi universelle. C'est tel que l'approche a été faite et a été suivie chez Driving It Around, qui a été apparemment reproduit sur d'autres migrations. Mais en tout cas, il y a plein de petites guidelines intéressantes et des petits réflexes à venir chercher et copier là, je crois.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
I have everything here.
Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
I'm so